Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Plan large, l'encyclopédie vivante du cinéma. Aujourd'hui, F comme Forman, Miloš Forman, une épopée de la dissidence avec Marcos Udal et Entebin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large, une épopée de la dissidence. La formule est de Pascal Bonitzer dans les cahiers du cinéma au moment de la sortie de Ragtime, mais elle vaut pour toute l'œuvre de Miloš Forman, chef de file de la nouvelle vague tchèque avec L'As de pique, Les amours d'une blonde et Au feu, les pompiers, devenu, en passant selon ses propres mots, du zoo à la jungle, l'un des plus grands cinéastes américains avec des super productions, qu'il soit au box-office des grands succès ou de retentissants échecs qui, comme Vol au-dessus d'un nid de coucou, Air ou Amadeus, reste mythique encore aujourd'hui, un an après sa disparition, le 13 avril 2018. Perfectionniste, farouchement indépendant, mais dupe d'aucun système, que ce soit le communisme ou le capitalisme, sans parler du nazisme qui avait tué ses deux parents, Forman en a payé le prix en ne signant que 12 longs métrages en 55 ans de carrière. Une œuvre rare donc, mais d'une cohérence tout aussi rare, qui a toujours défendu les libertés individuelles contre les autoritaires puritains et intolérants de tout poil, en étant résolument du côté des réfractaires insoumis, des bouffons mal peignés, des libertaires irrévérencieux, des idiots et des fous, le tout avec un humour souvent corrosif, parfois sarcastique, mais jamais cynique. C'est avec tendresse et un goût constant de l'improvisation et du visage de l'acteur que Forman a toujours exploré la complexité de ses personnages, comme en témoignent ses films les plus méconnus et les moins bien compris à leur sortie, comme Taking Off ou Man on the Moon, et l'excellent Ragtime, dont la ressortie en Blu-ray dans une très belle copie restaurée nous a donné l'envie de ce plan large sur ce cinéaste parfois à contre-temps, c'est-à-dire toujours à l'heure juste. Avec nous, deux passionnés de l'œuvre de Miloš Forman, Marcos Udal et Entebin, qui en fin d'émission nous parlera de ce qui est sans doute le plus grand film d'un autre exilé fameux qui fit le chemin inverse de Miloš Forman, Jules Dassin, dont Les Forbans de la nuit vient de sortir en Blu-ray. Mais pour l'heure, il est temps de relever le rideau de fer. La boutique va ouvrir.
Vzduch je modrým nikotínem nasycen. Nový ubrus starým vínem polit. Mladý muž si tyká s měsícem a vzliká. Život je pes a já se musím holit. Je, je. Je, je, je. Není to dávno, co má brata byla holá, když tu náhle přišel vous malý a zrzavý. Koupil jsem si volení a večer místo školení holil jsem se potají, tak jak tohoši dělají, když mě náhle prozradili boty vrzavý. A i hned bylo veselo skrz jeden zdrzavej fous, jenom málo scházelo, byl bych je vsteky kous. Utíkal jsem večerem a nebyl jsem si jist, zda neskončí to malérem, až budu tesat twist. Je, je, ha, 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 ha,
Un peu de twist tchèque, c'est le début du premier long métrage de Miloš Forman en 1964, L'As de pique. L'As de pique ouvre une trilogie tchèque avec Les amours d'une blonde l'année d'après et puis Au feu les pompiers en 1967, des films qui vont faire de Miloš Forman, je l'ai dit tout à l'heure, le chef de file de la nouvelle vague tchèque. Enfin, il n'est pas tout seul, hein. Il y a Jiří Menzel, Ivan Passer qui collabore avec lui au scénario et Vera Chytilová, on va en reparler tout à l'heure. On recevait ici même, il y a deux semaines, Jerzy Skolimowski qui commence à la même période en Pologne, qui filme lui aussi la jeunesse de son pays dans une société où elle étouffe. Mais avant cela, Marco Souzal, avant même L'As de pique, il y avait un premier court-métrage, Le concours, que certains appellent l'audition, hein, ça dépend pour les traductions, parce que c'est un documentaire sur une audition précisément de jeunes chanteurs qui veulent rentrer dans une troupe de théâtre, de musicals, n'est-ce pas Ntebin? Et Marco Souzal, vous écriviez l'an dernier, dans la nécrologie de Miloš Forman, que vous aviez rédigé pour Libération, que ce film, Le concours, constituait pour lui un véritable programme des films à venir.
Oui, dans le sens où, bah, avec ce film, il fait presque une sorte de casting déjà pour ses films suivants. Et c'est le programme, c'est que c'est, en tout cas par rapport au film tchèque, c'est une sorte de regard un peu documentaire sur la jeunesse de l'époque, et pas simplement la jeunesse, parce que ce qu'il filme aussi dans ses films tchèques, c'est les rapports entre générations. Et en même temps, déjà dans ce regard, il y a une forme de un mélange de tendresse et d'ironie, c'est-à-dire que ce qu'il filme aussi, c'est la part un peu ridicule qu'il y a dans les personnages qui filment, une sorte de quelque chose qui est toujours au bord du burlesque, mais qui passe par une vision un peu documentaire, qui fait que ces films tchèques, d'ailleurs, me semblent très très bien vieilli peut-être par rapport à certains films du nouveau cinéma de l'époque, parce qu'il y a cette densité comme ça, du réalisme de son regard.
Oui, il y a une dimension effectivement très documentaire qu'on voit dans ce début de L'As de pique, puisque c'est l'ouverture d'une boutique qui sera inspirée, Miloš Forman l'a dit, par celle de son oncle. Hein. Ses parents donc ont été tués par les nazis pendant la guerre. Lui, il est recueilli par son oncle dans une boutique et on a le sentiment, en voyant ces vieilles dames qui arrivent, qui regardent la caméra, en voyant ces échappées en permanence dans la ville de Prague, qu'on est dans un quelque chose d'assez indécidable. On ne sait jamais trop quand on est dans la fiction, quand on est dans le documentaire, Ntebin.
Ouais, moi j'ai le sentiment, à chaque fois que je revois un film de Forman, j'ai cette impression, il a fait relativement peu de films au cours d'une très longue carrière.
Oui, je l'ai dit, 12 longs métrages.
Voilà, et que chacun de ces films est un monde, et que quand on entre dans le film, déjà on doit avoir le sentiment qu'on pénètre dans un univers. Donc il y a le cinéma de Forman de manière générale et chaque film est un film monde. C'est très particulier et qui impose en plus un point de vue, enfin impose ou propose un point de vue sur ce monde qui est le regard de Forman, à la fois un regard qui cherche la vérité. Mais Forman disait lui-même, la vérité, c'est on la vit tous les jours, c'est pas très excitant. Donc mon but, ça va être comment rendre excitante et stimulante cette vérité à l'écran. Et il y a toujours cette dualité entre le réalisme, la stylisation, qui fait la richesse du regard qu'il porte sur les gens, sur la société, sur les sociétés et sur le monde.
À partir du moment où on dit la vérité, on est forcément politique. C'est ce que disait Miloš Forman. Je ne fais pas de film politique, mais dès qu'on montre la vérité, on l'est forcément. Comment ces films sont reçus à l'époque en Tchécoslovaquie, Marco Souzal, à la fois par le public, le jeune public qui manifestement s'y retrouve, et par les autorités?
Ces premiers films vont être, je crois, assez bien reçus un peu partout dans le monde, comme vraiment l'un des représentants comme ça du nouveau cinéma mondial, comme il en émerge un peu partout dans le monde, et en particulier en Europe à l'époque. Il va avoir surtout des problèmes avec le troisième film, Au feu les pompiers, qui est un film qui va être censuré, et c'est un film où la dimension, disons, satirique est plus évidente. Où le côté monde dont on parle, Ntebin, est beaucoup plus évident, puisque c'est une sorte de huis clos qui se passe au cours d'un bal des pompiers, avec une dimension de fable politique derrière le regard un peu comique. Et donc là, il va commencer à avoir de vrais problèmes avec les autorités, avec la censure, parce que là, sa dimension politique va être plus évidente que dans les précédents films.
Et quand les soviétiques vont intervenir en Tchécoslovaquie, fin du printemps de Prague, reprise en main politique, on va même ériger ce film au feu les pompiers en symbole de la dégénérescence totale du système pragois. En tout cas, Miloš Forman n'est pas à Prague au moment de l'écrasement du printemps de Prague. Il est en France. Il va assez vite partir aux États-Unis avec Jean-Claude Carrière pour écrire un film. Et ça va donner ça.
This is a joint. The joint has two ends. It has one end which is rolled shut and another end which is open. Take the joint with the open end facing you firmly between your thumb and index fingers, like this. Do you know what I'm saying? Then you take it and put it in your mouth, like this. Then you take out a match, you light it, you put it to the end, and you inhale very deeply, like that. And as you inhale, curl out the edges of your mouth so that you let in a lot of oxygen along with the smoke. It is very important to get a mixture of gas and oxygen. After you inhale, do not exhale immediately, but inhale very far into your back, and hold it in with your diaphragm for a count of 10. And then exhale, preferably through your nose. Got that? Now the other thing that you must remember is that after you inhale, you take the joint and you pass it to the person sitting next to you. Do not, repeat, do not hold on to the joint. This is called bogarting the joint, and it is very rude. So you take it and you pass it to the person sitting next to you until the joint gets passed around and it's very, very small. That is called a roach.
The remnant is a roach?
Yes.
Roach.
And I will collect those. Now, are there any other questions before we light up?
Yes. You said we should count to 10. How fast should we count?
Just fast enough so that you don't pass out.
Oh.
Une petite leçon pour apprendre à fumer de la marijuana destinée aux parents de hippies. C'est Vincent Schiavelli qui la donne, un des meilleurs second rôles et une sorte de mascotte pour Miloš Forman. On va le retrouver tout au long de sa filmographie. Il sera un des internés de Vol au-dessus d'un nid de coucou. Il va jouer le patron de la chaîne ABC dans Man on the Moon. C'est Taking Off que Miloš Forman tourne en 70. Le film sort en 71. Et c'est, selon ses propres termes, c'est pas son premier film américain, dira-t-il, Marco Souzal, c'est son dernier film tchèque. Pourquoi est-ce qu'il en parle comme ça, de ce film ?
Oui, parce que c'est un film qu'il a tourné donc aux États-Unis, mais c'est un film très proche des films tchèques par sa forme, par son côté chronique. Et puis c'est vraiment un film où on sent que c'est le regard vraiment d'un Européen sur l'Amérique. C'est un film aussi qui est réalisé avec des moyens plus indépendants, plus légers, plus proches de ce qu'il faisait en Tchécoslovaquie. Par ailleurs, c'est un film qui commence aussi par un concours de chansons. Donc c'est presque comme si...
Qui vont revenir tout au long du film. Les chansons sont comme un chœur antique qui rythme le film.
Oui, la première partie du film, c'est quasiment une sorte de remake américain du film concours dont on parlait tout à l'heure. Et donc il y a une... Oui, on peut faire des liens très forts avec ces films tchèques, notamment sur ce regard à nouveau porté sur la jeunesse, et plus encore, et de façon peut-être plus encore évidente dans Taking Off, sur l'écart entre les générations et sur les parents. Là, la scène qu'on vient d'entendre, on apprend aux parents dans un club où des parents recherchent leurs enfants fugueurs. On leur apprend à se comporter un peu comme les jeunes gens, à les comprendre, et notamment ici à fumer des joints. Donc tout d'un coup, c'est le point de vue des parents. C'est cette jeunesse vue à travers le regard des parents qui ne comprennent pas très bien ce qui leur arrive. Ce qui a déjà un petit peu déjà dans les films tchèques, notamment L'As de pique avec le personnage du père, Donc en ce sens, c'est un film très très proche des films tchèques. Oui.
Alors, les comprendre, c'est là déjà qu'on voit toute la complexité du regard de Miloš Forman sur ces personnages. Parce que personne n'est jamais condamné chez Miloš Forman. Ils sont parfois ridiculisés, parce que les gens sont objectivement ridicules. Mais son intérêt pour les parents, là notamment, il faut rappeler que le film, c'est sans doute le seul film sur le mouvement hippie tourné pendant même le mouvement hippie. Alors on pourrait se dire qu'il est résolument du côté des jeunes fugueurs. Non, il montre des parents un peu largués, paumés, drogués comme leurs enfants, mais plutôt à l'alcool, et qu'il va montrer dans leur complexité, Antemine.
Oui, c'est-à-dire que ce qui intéresse Forman, ce sont les personnes, ce sont les individus qui éventuellement agissent de telle ou telle manière à cause du système. Mais ça n'est jamais le système qui intéresse Forman, c'est les gens. Et il se trouve que à l'époque, il doit avoir une trentaine d'années, donc comme âge, il est exactement au milieu entre les deux générations. Et il commence par vouloir faire un film avec Jean-Claude Carrière sur les hippies. Et puis, à force de... justement, il fait des auditions, il va voir les gens. Et il s'aperçoit que les parents sont des figures au moins aussi intéressantes à filmer, sinon plus que les jeunes qui sont un peu paumés et tout. Et ça, je pense que ça va être une matrice qui est, comme vous le disiez, qui est déjà dans la dernière scène de L'As de pique, où tout d'un coup, on apprend que finalement, c'est le père, le personnage principal. Et ça, c'est quelque chose qui va être récurrent, c'est-à-dire le point de vue de l'adversaire, le point de vue de celui qu'on n'entend pas beaucoup ou pas souvent et qui va se révéler comme ça, le personnage peut-être principal du film. Ça ira jusqu'à Ragtime, où il y a un personnage qui n'est qualifié au générique que par le mot du père, et puis qui, petit à petit, va se révéler le protagoniste du film, sans qu'on le sache, avec un plan muet.
Alors ça, on va y revenir dans un instant à Ragtime, mais tant qu'on est parmi les hippies, le film hippie le plus connu de Miloš Forman, ce n'est pas Taking Off, c'est Hair. Hair, il va le réaliser 6 ans plus tard, sauf que là, on n'est plus du tout dans le mouvement hippie, c'est son premier film historique d'une certaine façon, son premier film en costume qui sort complètement à contre-temps. On est en pleine période punk à ce moment-là, et le film est un peu mythique maintenant, mais à l'époque, c'est plutôt un échec. Qu'est-ce qui explique ça? Peut-être, Marco Souza, le fait que Forman là n'a plus 30 ans, il a vieilli et maintenant il regarde ce mouvement comme quelque chose de presque exotique, comme si c'était un des parents. C'est très curieux.
Oui, c'est-à-dire qu'à nouveau, il y a un regard un peu, il y a une autre forme de recul avec R qui est celui du temps. Parce qu'il a plus l'âge de ces jeunes hippies, bien sûr, aussi parce que c'est plus la période hippie comme vous l'avez dit. Donc il filme comme un moment de l'histoire des États-Unis. Alors bien sûr, il inclut les chansons, etc. Mais le film avec le recul du temps, c'est, là aussi, ça fait, je trouve que le film a plutôt bien vieilli parce qu'il est pas dans le bain dans lequel il a été, il est sorti du bain dans lequel il a cette comédie musicale a été créée. Donc là, c'est à nouveau ce regard un peu décalé. Je dirais que ce regard décalé aussi, notamment dans Taking Off, c'est aussi ce qui fait l'humour de Forman. C'est-à-dire tout d'un coup, c'est aussi les choses vues par ceux qui ne les comprennent pas très bien, par ceux qui se sentent un peu obligés de suivre l'époque. Mais au fond, l'époque, c'est ce que vous disiez, c'est des généralités, au fond personne n'est totalement conforme à ces généralités, donc les gens s'efforcent d'y appartenir, et c'est là où quelque chose d'un peu comique se crée, enfin, sur le fait qu'au fond tout le monde est toujours un peu décalé par rapport à son temps.
Antemine.
Oui, et puis moi, il y a une chose qui me frappe aussi avec Hair, c'est que pour la seule fois finalement de sa carrière, Forman peut faire un film entièrement musical. Et la musique a toujours été chez lui un moteur très très puissant de son esthétique. Et d'ailleurs, c'est pas parce qu'il veut faire un film rétrospectif sur les hippies qu'il fait Hair, c'est parce que ça fait 10 ans qu'il veut faire Hair. Et que au moment où Hair est en plein succès, eh bien Forman n'arrive pas à avoir les droits, ou les producteurs veulent pas le produire, etc. Et donc ça va devenir, en plus, à la fin des années 70, la comédie musicale n'existe plus du tout comme genre populaire. Donc c'est doublement rétrospectif. Et puis il y a aussi une chose qui est capitale par rapport à sa période tchèque, c'est que depuis Vol au-dessus d'un nid de coucou, Forman a compris, enfin ne veut plus faire de chronique, il veut raconter des histoires. Et dans la pièce Hair, c'est une suite de numéros qui sont très peu reliés entre eux. Et là, tout d'un coup, il y a un véritable personnage principal dont on va suivre. Enfin, il y en a deux, en fait, mais dont on va suivre l'histoire jusqu'au bout. Donc, le fait de se focaliser sur une histoire parmi plusieurs potentielles, c'est quelque chose qu'il apprend petit à petit et qui va s'accentuer au fil de sa période américaine.
All right. Make the bets.
What's this?
Make the bet. It's a dime, Martini.
I bet a nickel.
Dime's the limit, Martini.
I bet a dime.
This is not a dime, Martini. This is a dime. If you break it in half, you don't get two nickels. You get shit. Try and smoke it. Understand?
Yes.
You understand. All right, here they come. Queen to the chesser. Big bull to tablations. Ten to Billy to match his wang. And the dealer gets a three.
Hit me.
I can't hit you because it ain't your turn yet. You understand? You see these other people? These are the real ones. These are real people here. What do you do, Chess? Hit or sit? That's 23 up, Cheswick. All right, Tabor, you're busted. Give me this.
23.
Huh? Hit?
Hit me.
Shut up! Tabor.
Come on.
Dime.
I'm next, Tabor.
You're not next. Huh?
Hit me.
Ace.
Hit me.
That's 4 or 14. Don't want any more. Billy?
Hit me.
All right. 5.
Hit me. Hit me.
Huh? You didn't make a bet, Martini. I can't hit you.
Yeah,
Jesus,
I bet a
Christ.
Dime.
Huh?
I bet a dime.
All right, here. Go ahead. That's 20 showing.
No.
Take your money.
No. It's not. It's 10, 11, 12, 13.
This is a fucking queen here, you understand? You don't count to this and to this.
Hit me.
You got 20 showing.
Vous écoutez France Culture, plan large sur Miloš Forman avec Marcos Uzal et Ente Bin. Nous sommes dans un hôpital psychiatrique. Nous sommes dans une partie de poker qui va assez vite s'énerver. Nous sommes évidemment dans Vol au-dessus d'un nid de coucou et la musique qu'on entend, puisque vous avez parlé, Ente Bin, de l'utilisation de la musique par Miloš Forman. Ce n'est pas de la musique de film, c'est une musique tout à fait diégétique. Elle est dans le film, elle est jouée par un petit tourne-disque dans le box des infirmières et elle rend les patients de cet hôpital encore plus fous qu'ils ne sont au départ. La musique, c'est aussi un moyen de contrôle chez Miloš Forman.
Oui, c'est un moyen de contrôle qui est sous-jacent, qui n'est pas montré. Et c'est aussi ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il montre les résultats de ce que produit un système oppressant ou dominateur. Mais ça a aussi l'intérêt de révéler chez le personnage une énergie ou une force ou une impulsion dramatique qui, sans cela, peut-être n'aurait jamais vu le jour. Donc voilà, ça fait partie, c'est le moteur de la narration. Et c'est intéressant aussi, c'est que chez Forman, il y a ce côté mode d'emploi, on énonce les règles du jeu, comme on l'a vu avec le joint tout à l'heure, ici, et de gens qui ont besoin finalement de repères ou de rituels dans une sorte de chaos général. Et c'est ce qui fait ce décalage-là qui fait aussi l'humour et l'ironie de la pensée de Forman.
On a entendu, vous aurez peut-être reconnu la voix de Jack Nicholson. Il faut rappeler que ce film a été un triomphe aux Oscars. 5 Oscars, meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur pour Jack Nicholson, meilleure actrice pour Louise Fletcher. C'est une des rares utilisations, Marcos Uzal, d'une star par Miloš Forman, parce qu'il s'en méfie beaucoup. Il préfère découvrir lui-même des acteurs, parce qu'on entend aussi Danny DeVito dans ce film, et c'est un de ses premiers films. Christopher Lloyd, Brad Dourif sont tous dans cette bande de dingues
que va filmer Miloš Forman, mais il a besoin d'avoir des acteurs à sa main, d'une certaine façon. En tout cas, dans la manière de les filmer. Et on la voit dans cette scène ici, où il va toujours avoir une caméra sur le personnage principal, et puis une autre caméra qui va se balader, essayer d'attraper des petits moments de la vie, complètement documentaires, sur le coup, qui serait impossible à faire jouer si on disait, voilà, gratte-toi le nez, etc. Marco Souzal.
Oui, je crois que sa réticence à employer des stars est liée à l'aspect qu'on pourrait dire un peu démocratique, disons, de son cinéma, où tous les pères, ils filment des communautés, des groupes de personnages, où tout d'un coup, effectivement, on peut avoir un personnage central et puis tout d'un coup se décaler vers des personnages plus secondaires, que tout le monde ait la même importance, et aussi ça donne la possibilité tout d'un coup de faire émerger comme ça une figure, et que ça passe par le récit et pas par la présence d'un acteur déjà reconnu ou connu. D'ailleurs, ça lui posera quelques problèmes quand il fera Ragtime, qui est un film très 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 coûteux, une très grosse production. On essaiera de lui imposer des stars, et la seule qu'il trouvera, qu'il acceptera, c'est James Cagney, qui fera son retour avec ce film. Par ailleurs, dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, ce qui est intéressant, c'est que si on considère, selon ce qu'il a lui-même dit de Taking Off, que c'est son premier film américain, on voit qu'il part tout à fait de la marge la plus absolue, hein, y compris géographiquement d'ailleurs, parce que c'est un hôpital psychiatrique qui est en pleine nature.
Dans l'Oregon,
qui est presque dans une sorte de paysage intemporel. Et donc c'est une sorte de miniature comme ça d'une certaine Amérique, avec la figure de l'Indien comme ça, qui est très très émouvante, très très belle, mais tout ça en même temps sans discours, sans que ce soit appuyé. C'est-à-dire que la marginalité, elle passe par une façon d'être au monde, d'être avec les autres, une adaptation, disons. Et donc voilà, il fait une sorte de portrait en creux de l'Amérique, mais encore une fois, sans discours, sans que ce soit démonstratif.
Et c'est d'autant moins démonstratif qu'on a le sentiment aussi, Entebbe, en voyant ce film, que c'est le passage de Miloš Forman au classicisme, d'une certaine façon, qui va s'accentuer par la suite, mais donc pas de discours, c'est-à-dire pas montrer de manière évidente qu'on déconstruit, qu'il est beaucoup moins audacieux formellement, apparemment, que dans sa période tchèque ou que dans Taking Off, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, il prend la voie du récit.
Absolument. Il apprend que raconter une histoire, finalement, lui donne des armes extraordinaires pour faire ce qu'il veut après, puisqu'il a il est tranquille avec une histoire. Donc après, il peut se laisser aller dans le regard qu'il porte au personnage. Et alors, on parlait tout à l'heure du concours. La notion d'audition ou de casting est pour lui absolument essentiel. Même dans Au feu des pompiers, il y a aussi un entretien d'embauche comme ça avec des filles.
Et un concours de Miss.
Et c'est je pense pour ça qu'il veut pas de star. C'est-à-dire que il veut choisir la meilleure personne pour incarner le personnage. Donc même à des grandes stars, il va vouloir éventuellement faire passer une audition ou des essais, quitte d'ailleurs à faire passer des auditions à des gens qui ne sont pas du tout acteurs. Il adore mélanger professionnel et non professionnel, parce qu'il dit lui-même que face à des non professionnels, l'acteur doit, pour être naturel, encore plus puiser dans quelque chose, d'excellence, et donc ça c'est essentiel pour lui. Quand on lui dit mais comment ça se fait que en Tchécoslovaquie vous n'aviez que des non professionnels alors que en Amérique vous utilisez quand même beaucoup d'acteurs, de vrais acteurs, il dit parce que il y a un vivier extraordinaire. En Tchécoslovaquie vous trouvez pas de bons acteurs. Dès que vous allez au Nied de Prague, il y en a pas, donc on prend des non professionnels. Mais aux États-Unis, il y a tout ce que vous voulez, vous pouvez puiser. Et en revanche, ce casting, c'est un processus qu'il trouve très cruel. Donc c'est pour ça qu'il le montre aussi dans ses films, parce que c'est aussi une métaphore de la société, de choisir pourquoi lui et pas moi. C'est quelque chose de très injuste qui fait partie aussi de récits de ses films. D'ailleurs, Salieri se demande, en parlant de Mozart, mais pourquoi lui et pas moi?
What kind of music do you play?
Anything they ask me to. And then I play ragtime.
Well, we have some music here. Could you give us a tune?
Maybe some other time.
I think what Mr. Walker's trying to say is that he doesn't read music.
Am I right, Mr. Walker? I read music so good, white folks think I'm faking it.
Les pianistes noirs savent déchiffrer la musique, ils savent même la composer. C'est un moment de ragtime avec Brad Dourif, Howard E. Rollins Jr. qui joue le pianiste de ragtime Cole Hawes, Walker Jr. Alors ragtime, immense film, très méconnu, parce qu'il n'est pas ressorti en salle depuis sa sortie française en 1982. On le trouvait pour l'instant en DVD dans une version française uniquement. Et voilà qu'il ressort en salle dans une copie restaurée. Il sort en Blu-ray, en DVD avec plein de bonus. On va en parler. Qu'est-ce qui s'est passé, Marco Souzal, pour que ce film soit un peu écarté de la carrière de Miloš Forman et qu'en tout cas on le redécouvre maintenant. Il sort à un mauvais moment. Il raconte une mauvaise histoire pour l'époque. Il fait un film. J'ai presque le sentiment qu'on lui reproche d'avoir remplacé Robert Altman, qui devait réaliser ce film au départ. Dino De Laurentiis l'avait approché, et puis voilà, il se brouille sur le montage de Buffalo Bill et les Indiens. Donc c'est à Forman qu'échoit ce projet. Qu'est-ce qui s'est passé, Marco Souzal?
Il y a plusieurs explications possibles, mais d'abord, une chose qu'on pourrait dire de façon générale sur le Forman américain, qui est une sorte de malentendu sur le fait qu'à un moment, il soit devenu un cinéaste, qu'on pourrait dire classique, et que ça a été considéré par certains comme une forme de... Oui, comme s'il rentrait dans le rang, si vous voulez. Et du coup, je pense qu'il y a une méconnaissance, une sous-estimation de ces films américains, et celui-ci en particulier, qui est une grande fresque historique assez luxueuse, donc un regard un peu rapide de l'époque pouvait peut-être le faire penser que c'était un film encore plus académique, donc je crois qu'il y a ça. Puis c'est aussi une époque, c'est un film qui donc cette fin début des années 80, toute fin des années 70, c'est quand même ce qu'on a appelé le déclin de ce qu'on a appelé le nouvel Hollywood, hein, c'est-à-dire avec c'est aussi juste avant l'échec monumental, l'échec commercial monumental de La Porte du Paradis. Donc tout d'un coup, c'est aussi une époque où ces grandes...
C'est donnant, le ragtime est presque la suite de La Porte du Paradis. Enfin, ça commence à la fin du film de Cimino.
Oui, c'est des films qu'on pourrait rapprocher comme ça. Il y aurait peut-être un troisième aussi qui serait, peut-être une fois en Amérique, de Léon. Je pense que c'est peut-être que l'époque n'était pas prête à voir la part subversive, au fond, qu'il y avait derrière cette fresque historique luxueuse. Parce que c'est ça ce qui frappe aujourd'hui, c'est que c'est un film très très subversif sur ce que ça raconte de l'Amérique.
C'est d'autant plus subversif que c'est l'Amérique vue du côté de ses minorités. On a donc ce pianiste de ragtime qui va se faire humilier dans la rue par des pompiers qui rappellent ceux de Au feu les pompiers, qui dépose un excrément humain dans sa voiture et qui, pour une raison de question de dignité, c'est l'adaptation d'un livre qui était un best-seller à l'époque, qui lui-même était une relecture du Michael Collas de Kleist, qui dira voilà, je veux qu'on nettoie ma voiture. Et puis il y a aussi un personnage de juif russe immigré qui va être un futur cinéaste, une sorte d'autoportrait de Miloš Forman sur l'invention du cinéma. Il y a une danseuse, donc on a une femme de mauvaise vie qui va donner aussi son point de vue, mais c'est surtout une grande réflexion et très parlante. Aujourd'hui, on se pose la question de la présence des Noirs aux États-Unis à l'écran et dans la société sur comment agir. Et ça, c'est presque un film qui parle des années 60, puisqu'on pense au Black Panther, on pense au Weather Report. La question du comment est-ce qu'on passe au terrorisme est abordée, Entebbe.
Oui, je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles le film marche pas, et l'une des raisons pour lesquelles, quand on voit le film aujourd'hui, on est ébloui, c'est époustouflant. C'est d'abord il y a ce côté fresque avec plein de personnages qui la première heure est extraordinaire, et puis petit à petit on isole un personnage qui est d'ailleurs qui ressemble à beaucoup d'égards, c'est Foreman, et c'est sans doute pas consciemment, mais c'est le drame et la richesse de Foreman depuis toujours, c'est jusqu'où est-ce que je peux aller dans le compromis. C'est-à-dire Foreman, d'abord le compromis avec les autorités tchèques pour faire les films qu'il veut, ensuite avec le système hollywoodien. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Foreman y arrive. Il y arrive très bien, il devient le cinéaste à Oscar, etc., après avoir crevé la dalle au Chelsea Hotel. Pour lui, mais il ne s'aveugle jamais de cette réussite. Il continue de réfléchir dessus. Et Ragtime, c'est une sorte de point d'orgue de toutes ces réflexions. Je pense qu'il peut, il peut se targuer d'avoir fait un autoportrait à travers tous les personnages du film. C'est extraordinaire. Des plus complexes, des plus mauvais ou des plus nocifs, jusqu'à ceux qui semblent tout réussir, et finalement ils sont tous dans le même univers chaotique que dépeint Foreman. C'est encore une fois un film monde, mais qui est d'une force aujourd'hui, avec en plus le luxe de la superproduction de Dino De Laurentiis, c'est-à-dire que là les scènes dans le ghetto juif sont extraordinaires. Aujourd'hui, ce serait fait en numérique, mais là c'était une vraie rue de New York qu'ils ont utilisée avec des centaines de figurants. Ça grouille, c'est fabuleux. On a l'impression de voir une photo d'époque qui prend vie sous nos yeux.
Ce serait assez passionnant, effectivement. Vous l'abordiez, Marco Souza, le film de Sergio Leone, Il était une fois en Amérique. Il y a au moins une comédienne en commun, c'est Elizabeth McGovern, qui joue quasiment le même rôle dans les deux films. On se dit que Leone a dû voir ce Ragtime pour choisir Elizabeth McGovern. Il faudrait presque faire une étude comparative des deux, parce que le film de Leone est beaucoup plus lyrique, il est beaucoup plus opératique, même par moments, y compris dans cette représentation du ghetto juif. Il filme la même chose, là où Foreman, là encore, a ce regard documentaire qui me semble, il n'a jamais perdu, Marco Souza.
Oui, documentaire et je dirais distant. C'est-à-dire que le classicisme de Foreman, c'est aussi une forme de distance. Pour filmer quelque chose qui est finalement la montée de la violence. Et le cinéma américain, quand même des années 70, 80, s'est énormément intéressé à la violence, en essayant de trouver des formes pour filmer cette violence. Et Foreman, lui, filme la montée de la violence, mais en restant dans ce classicisme. Et c'est ça qui fait que le film est assez fort, parce que c'est presque une sorte de constat. D'ailleurs, il disait une chose assez drôle dans un entretien, je crois, qui est dans le livret du DVD, sur le fait que le fait qui fait que le personnage va commencer à se révolter, qui sont les excréments que mettent les pompiers dans sa voiture. Il dit ça en Tchécoslovaquie, le personnage aurait ironisé, aurait trouvé une façon de désamorcer la chose par l'humour. Mais aux États-Unis, au contraire, il y a une réponse beaucoup plus sérieuse et qui aboutit à la violence. Donc pour lui, c'est aussi une sorte de phénomène comme ça, de naissance de la violence qu'il observe avec sa distance.
Comprendre l'Amérique, ça aura toujours été le projet de Foreman, d'une certaine façon.
Hello. I am Andy. And I would like to thank you for coming to my movie. I wish it was better, you know. But it is so stupid. It's terrible. I do not even like it. All of the most important things in my life are changed around and mixed up for dramatic purposes. So I decided to cut out all of the baloney. Now the movie is much shorter. In fact, This is the end of the movie. Thank you very much. I am not fooling. Goodbye. Go.
Alors Andy Kaufman a beau nous dire de partir et que c'est la fin du film et qu'on entend le générique de fin, qu'on voit se dérouler le générique de fin, c'est le début de Man on the Moon, le grand film de Miloš Forman en 1999. Là encore, un film sans doute qui a été mal compris, mal reçu à sa sortie. Vous écriviez, Marco Thuzal, dans votre nécrologie de Miloš Forman dans Libération, que c'est sans doute son meilleur film américain. Je partage tout à fait cet avis. On n'a pas parlé de Amadeus qui est le sommet de sa carrière, 12 Oscars, succès international. Mais il y a sans doute un point commun entre ce film-là, Man on the Moon, Amadeus, et puis aussi son film sur Larry Flint, c'est qu'il va filmer des personnages irrécupérables, d'une certaine façon. Des marginaux malgré eux, mais qui sont des sortes de monstres qui permettent de jeter un regard de biais sur ce qui serait finalement l'industrie du spectacle, puisque même Amadeus parle déjà de ça, Marco Thuzal.
Oui, c'est ce que je trouve passionnant dans ces trois, on pourrait dire biopics, que vous avez évoqués, c'est que il choisit des figures effectivement irrécupérables et qui sont même subversives presque malgré elles. C'est-à-dire que c'est aussi ce qui les rend irrécupérables, c'est que ce sont des êtres totalement immatures. Quand il filme Amadeus, c'est ça les grands biopics, c'est quand un cinéaste a un point de vue particulier. On n'attend pas d'Amadeus qui nous montre ce qu'était réellement Mozart. C'est ce qu'en fait Forman. Il en fait une sorte d'éternel adolescent totalement immature. Et c'est ça ce qui va l'intéresser aussi chez Larry Flint et chez Andy Kaufman. Pour moi, ça va à l'envers de tout ce que font les biopics généralement, qui opère une sorte de normalisation des figures sur lesquelles il se penche. Ici, au contraire, plus le film avance, plus Andy Kaufman est un être mystérieux qui préserve son mystère jusqu'au bout, tout en étant une sorte de bouffon immature qui déjoue constamment les limites entre la réalité et le spectacle. C'est-à-dire pour lui, tout est un spectacle permanent qui joue constamment avec ça, à troubler ces frontières-là. On ne sait plus même à quel moment il est censé être drôle ou pas. Et je crois aussi, alors si j'ai pu dire que c'est le plus grand film américain, c'est qu'en plus je pense que c'est un film, c'est une sorte de synthèse. C'est-à-dire qu'à la fois on y retrouve effectivement Amadeus, mais on y retrouve aussi le côté quasiment burlesque de ses premiers films, enfin en tout cas l'humour un peu ironique, un peu bouffon de ses premiers films tchèques. Donc c'est une synthèse extraordinaire à partir d'un personnage a priori totalement mystérieux et irrécupérable, oui.
Et qui sera redoublé par un film qui va apparaître beaucoup plus tard. Je ne sais pas si vous avez vu ce documentaire qui s'appelle Jim and Andy, The Great Beyond, qui raconte comment Jim Carrey a été complètement possédé par son personnage. Et c'est presque un film de Miloš Forman dans le film de Miloš Forman. C'est un film complètement fou. Enfin, je ne sais pas quel souvenir vous en avez, Antebin.
De Man on the Moon. Oui. J'ai le souvenir d'un film assez éblouissant, comme vous le disiez, et ce qui me frappe aussi en vous entendant en parler, c'est que on revient peut-être à la première idole cinématographique de Forman, dans les traits que vous avez décrits, qui est Chaplin. Lorsque Forman dit son émotion quand il voyait les films de Chaplin quand il était adolescent, il dit « mais je comprends pas parce que moi, à la fin de Monsieur Verdoux, j'étais en larmes et tout le monde autour de moi riait ». Ce qui pourrait s'appliquer aussi à « Vol au-dessus d'un nid de coucou » ou à d'autres films de Forman. Et ce côté à la fois irrécupérable, immature, subversif et génial du personnage principal, c'est aussi parce que il représente la complexité de la société comme Charlot a pu le faire des dizaines d'années avant et à travers ce moyen d'expression que Forman a choisi et qu'est le cinéma et qui lui permet justement de faire ça. Vous disiez film synthèse, mais ce qu'aime Forman aussi dans le cinéma, c'est que c'est la synthèse de plein d'arts qu'il a aimé, qui, par exemple, il disait, il manquait vraiment à Amadeus au théâtre, il manquait la musique. Mais le cinéma appelle la musique. Donc là, j'ai vraiment pu faire le vrai Amadeus dont je rêvais et de faire une sorte de comme ça d'anatomie de la société en dénonçant les règles du jeu dont on parlait tout à l'heure, le mode d'emploi, mais en faisant rire avec une lucidité, parce qu'il y a aussi ça qui, je pense, est le trait principal de son cinéma, c'est de la lucidité sans apitoiement. Et sans non plus condamnation globale, c'est quelqu'un de son temps et qui réfléchit sur ce que nous sommes.
I just want to say, until we meet again, please remember, in this friendly world, with each day so full of joy, why should any heart be lonely? In this friendly world, with each night so full of dreams, why should any heart be afraid? Yep, it's a friendly world. You know, we should all treat each other like brothers and sisters. So everybody put your arm around the person sitting next to you and sway back and forth in rhythm to the music. Come on, everybody. Even if you don't like the person sitting next to you, okay? When I say okay, you say, okay, okay?
Okay.
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 Okay. Everybody sing. The world is such a wonderful place. The world is such a wonderful place to wander through. Follow the bouncing ball when you've got someone you love to wander along with you. Sky so full of stars, with the sky so full of stars, and the river so full of song, river so full of song. Every heart should be so thankful for this friendly world, thankful for this friendly world. Thank you for this friendly world. Thank you. And goodbye.
Merci et au revoir Miloš Forman. Ragtime, je le rappelle, est visible en salle en version restaurée, mais aussi en Blu-ray en coédition L'Atelier d'Image et Arte, avec de nombreux bonus dont la scène coupée racontant l'histoire d'Emma Goldman et un documentaire très étonnant de la cinéaste tchèque Vera Chilitova, un portrait sans concession de Miloš Forman par sa collègue de la nouvelle vague des années 60 qui, elle, était restée au pays. On attend encore la grande monographie Miloš Forman en France. Si l'un de vous deux veut s'y coller, Marcos Uzal, Entebin, vous êtes les bienvenus. Côté rétrospective, ne ratez pas celle que la Cinémathèque française consacre pour une fois non à un cinéaste, mais à une actrice, et laquelle Joan Crawford, l'incarnation idéale de la flapper selon Francis Scott Fitzgerald, une filmographie tout à fait exceptionnelle qui vous permettra de revoir Le Boulevard des Passions et le roman de Mildred Pierce de Michael Curtis, Femme de George Cukor, Johnny Guitar de Nicolas Ray, L'Inconnu de Todd Browning ou un de ses films préférés, Feuilles d'automne de Robert Aldrich et
bien d'autres encore. Nous consacrerons un plan large à l'actrice aux épaules larges comme celle de John Wayne et aux sourcils calligraphiés. Ce sera le 6 juin quand sortira le livre de Maxime Donzel, John Crawford, Hollywood Monster. Pour les rééditions en salle, vous avez l'embarras du choix. Le chef-d'œuvre d'Hélène Klimov, Requiem pour un massacre, récit tout à fait cauchemardesque mais aussi splendide du massacre d'un village biélorusse par les nazis, le plus grand film de guerre jamais réalisé selon l'écrivain J.G. Ballard, est ressorti mercredi en version restaurée, tout comme Les Misérables de Lewis Milestone, le roman fleuve de Victor Hugo, transformé en 1h45 en parabole contre le maccartisme. Ce fut d'ailleurs le dernier film hollywoodien du cinéaste, fiché dès 1945 comme communiste notoire par le FBI avant de s'exiler en Europe. Le grand Fritz Lang lui-même avait craint un temps de se retrouver blacklisté par l'administration McCarthy, ce qui ne l'a pas empêché à la même époque, 1950, de réaliser un petit joyau du film noir, House by the River, film qui était inexplicablement resté inédit en salle en France. L'injustice est réparée puisqu'il est depuis mercredi dernier disponible sur vos écrans. Film noir, McCarthyisme et exil européen, nous y voilà.
The night is tonight, tomorrow night, or any night. The city is London.
Nous sommes à Londres, c'est la nuit, un homme est poursuivi, il est très inquiet, comme le montre un gros plan sur son visage. Il prend quand même le temps de ramasser son œillet qui est tombé par terre, le rajuster à sa boutonnière avant de s'engouffrer dans un immeuble. Cet homme, c'est Richard Widmark, dans le rôle de Harry Fabian, rabatteur de cabaret, beau parleur et arnaqueur, très confiant dans sa bonne étoile qui un jour lui apportera enfin la fortune. C'est le début des Forbans de la nuit, grand film noir de 1950, qui est aussi le résultat d'une autre fuite, puisque si le film est tourné à Londres, il se déroule à Londres, en tout cas il a été tourné à Londres et pas dans un décor de studio hollywoodien, enfin pour une partie, c'est parce que son réalisateur, l'américain Jules Dassin, qui est vraiment au sommet de son art au moment où il tourne ce film, il a quelques soucis, il est inscrit sur la liste noire, il a été dénoncé comme beaucoup d'autres par son collègue Edward Mitrick devant la commission des activités anti-américaines de McCarthy, ce qui donne un film d'une noirceur et d'un pessimisme inouï.
Oui, et c'est d'ailleurs assez paradoxal, puisque dans leur panorama du film noir américain, Bord et Chaumeton mettent un gros plan de Widmark dans Les Forbans de la nuit, c'est-à-dire un film tourné à Londres. Et vous disiez effectivement que le film n'est pas tourné dans un studio hollywoodien. C'est un film où Jules Dassin, avec son génie de la plastique visuelle, utilise le Londres un peu détruit par le Blitz assez récent comme un studio expressionniste. Avec l'aide d'un grand chef opérateur anglais qui s'appelle Max Green, ces immenses ombres projetées comme ça sur les monuments londoniens, ces nuits hyper éclairées et brumeuses qui sont le cadre de ces poursuites. Le film est un vrai chef-d'œuvre. Et qui n'a étonnamment jamais été reconnu comme tel à l'époque en Amérique ni en Angleterre, là où il est sorti, mal reçu par la critique. Je pense que les Français ont eu un grand rôle à jouer pour la réhabilitation et la reconnaissance de ce film comme un film majeur. Richard Widmark, c'est le rôle de sa vie. Il avait été connu pour d'abord dans des rôles très très méchants, où il jetait des vieilles dames paralytiques d'escalier. Il y a d'ailleurs un escalier aussi très d'où il jette quelqu'un dans Les Forbans de la nuit. Il est en train d'opérer sa conversion vers des rôles plus sympathiques. Et là, il est vraiment entre les deux. C'est l'une des c'est un personnage d'une complexité et d'une richesse extraordinaire qui n'a rien pour être sympathique, mais qui pourtant est un vrai héros torturé. Alors, dans un petit rôle capital, vous avez la sublime Jean Tierney qui allait très mal à l'époque. Donc Zanuck pense que ça va lui faire du bien d'aller jouer un film à Londres. Ça va la reposer un peu. Et effectivement, c'est les rares havres de paix dans ce film sont ceux où cette petite frappe qui rêve de grandeur, jouée par Richard Widmark, va trouver du réconfort auprès de cette créature fabuleuse, mais qui ne fait que l'enfoncer encore plus dans le malaise parce qu'elle est tellement bienveillante que finalement elle ne fait rien pour essayer de changer ce qu'est ce personnage tragique de voyou.
Jean Tierney, la voici.
Look, honey. Look, here's the plan.
How much? Look, Harry, we've been through this 1,000 times. How much?
Well, all right. For our share, it's only 300 pounds. 300 pounds, and it's a life of ease and plenty.
No!
You've got the money. You've got it right here.
Sure, I've got it. But not for any greyhound track. Why, last month
but
it was
one
thing,
and now... Mary, this can't lose.
Oh, Harry, why can't you ever grow up? Harry, you gotta get hold of yourself. You can't go on forever, always running... Always in a sweat. You think I enjoy working night after night at the Silver Fox, getting drunks drunker? But I'm sticking it out, waiting for the day we can marry, lead decent, normal lives. Remember them, Harry. Nice people. Nice to know and be with. Remember the plans they used to make, the kind of life they were going to live.
I just want to be somebody.
Je veux simplement devenir quelqu'un, dit Richard Widmark. Dans ce film, édité donc par Wildside en Blu-ray, accompagné d'un livre de Philippe Garnier, 220 pages, qui nous apprend beaucoup sur la jeunesse de ce film, et notamment qui nous explique ces deux versions qui sont proposées dans cette édition. Il y a la version américaine et une version anglaise que Jules Dassin a toujours dénoncée, Mentebin.
Oui, il niait même avoir tourné les plans de la version anglaise, mais en fait il se trompait puisque la version anglaise a été faite d'abord, et c'est Zanuck qui a fait faire des retakes pour la version américaine, qui est bien meilleure, et ces retakes ont été faits à Hollywood, et Dassin n'a pas souvenir d'avoir tourné ces scènes, alors que certains commentateurs affirment que c'est lui qui les a fait. Ça fait partie des mystères, ça, de la réalisation des films à l'époque. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que la version américaine, c'est la bonne, avec les vraies scènes plus longues d'ailleurs et plus complexes que celles de la version anglaise, une meilleure musique, celle de Frank Waxman, qui a travaillé avec Hitchcock et tant d'autres, l'un des plus grands compositeurs hollywoodiens. Juste un petit mot pour terminer, qui en hommage à un acteur qui ne joue quasiment que dans ce film et qui est un vrai lutteur que Dassin est allé prendre et qui va avoir d'ailleurs les meilleures critiques lors de la sortie du film. Alors il s'appelle Stanislaus Zbysko, un vétéran de la lutte gréco-romaine qui a des scènes extraordinaires où on a l'impression de sentir de voir le grain de la peau des personnages quand ils se battent.
Les scènes de lutte sont d'une violence, oui, et d'une proximité tout à fait éprouvante pour le spectateur. C'est extraordinaire. Merci Ntebin. Les Forbans de la nuit de Jules Dassin, en un absolument magnifique coffret Blu-ray DVD avec le livre de Philippe Garnier qui raconte avec moult détails toute l'histoire de la fabrication de ce film, et puis aussi la version anglaise remontée, c'est chez Wildside. Et pour ceux que la chasse aux sorcières macartistes intéresse, je vous recommande un manga, The Red Rat in Hollywood d'Osamu Yamamoto, qui raconte avec furie cette histoire sombre et passionnante, c'est chez Vega. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, Jacques Zuber et Ludovic Auger. L'émission était préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Massimo Bellini.